Europe 1.
Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, elle est vénérée. Vénérée et parfois jalousée, normal, Lara Fabian est à part, habitée par le don pur, absolu. Pour ses 30 ans de carrière, elle qui a embrasé les plus grandes scènes du monde, eh bien Lara Fabian nous revient avec une balade co-écrite et co-composée avec Slimane, Ta peine. Annonciatrice, bien sûr, de l'album. Et je suis ravie de l'accueillir, Lara Fabian. Bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup, merci, bonjour.
Alors, chère Lara Fabian, on rêve, mais on rêve de quel défi, de quelle émotion, de quelle surprise quand on chante depuis 30 ans. Et je pose la question à l'artiste qui a chanté aussi bien à Madison Square Garden qu'au Kremlin, à Rome, qu'au fin fond de la Sibérie. On rêve de quoi après 30 ans de carrière?
De ne jamais perdre cet enthousiasme et cette joie qui naît dans l'enfance. Quand pour la première fois on se connecte au pouvoir de la musique.
Alors forcément au fil des décennies, j'imagine que vos goûts musicaux ont évolué. Pourtant vous restez fidèle à un répertoire qui est celui de la chanson française ambitieuse, hein, faite pour de grandes voix. Vous n'avez jamais eu envie de davantage creuser le sillon du R&B ou de la soul?
C'est un répertoire que j'adore, qui m'a énormément inspirée, où il y a des voix exceptionnelles et surtout une immense musicalité. Et après, est-ce que je serais légitime ou est-ce que je pourrais la manier avec la même nature libre et ancré, ça c'est une autre question. Je ne sais pas si ça m'appartient vraiment. Donc, généralement, j'essaie de côtoyer des choses dans lesquelles je reste moi, dans lesquelles je ne suis pas forcément obligée de me détourner.
Mais quand vous interrogez Lara Fabian sur votre légitimité, dites-vous, c'est complètement fou, dans le R&B ou la soul, bah, par exemple, beaucoup de Français ignorent qu'au cours de l'année 2000, vous avez décroché la première place des classements dance aux États-Unis, ce qui est absolument rarissime pour une francophone. On vous a effectivement sur des plateaux américains entendu souvent chanter du R&B, mais votre amour de la chanson française serait plus fort que tout?
En tout cas, serait ce qui me définit, tout à fait. C'est aussi mon premier amour, mon premier succès, mon premier public, ma langue, celle dans laquelle je réfléchis, même si ma langue maternelle c'est l'italien, de par ma maman. Le français reste immédiatement connecté à ce que je ressens de suite, tout de suite.
Ouais. Bon, cette voix prodigieuse, Lara Fabian, vous l'entretenez comment depuis 30 ans? Vous êtes une athlète vocale qui travaille ses gammes et son souffle absolument tous les jours, ou bien c'est pas la peine car vous faites confiance à votre voix?
Alors moi, j'ai eu un rapport très variable et évolutif avec ma voix. J'ai été une athlète pendant de longues années. Après, j'ai eu besoin de la laisser tranquille un peu, de lui laisser tout l'espace dont elle avait besoin pour ne plus chanter, par exemple, ou pour se demander si ce qu'elle chantait, comment elle le chantait, est-ce que c'était correct, enfin au sens le plus étymologique du terme,
oui.
est-ce que c'était correctement ancré, connecté, aligné à qui je suis. Après, j'ai eu des problèmes aussi avec ma voix, comme toutes mes collègues, toutes les chanteuses ou les chanteurs.
Quand les voix sont trop sollicitées.
Voilà, ou parfois elles sont blessées, ça peut arriver qu'on se blesse hein, vraiment physiquement, avoir un nodule, avoir une sorte de paresthésie sur une des deux cordes. Moi j'ai un peu tout eu, hein, j'ai eu un peu tout, voilà. Et donc comment est-ce qu'on réapprend avec une blessure? Et là on touche à un autre sujet, c'est comment est-ce qu'on comprend la source de la blessure, hein, qui n'est pas que purement physique.
Voilà.
Et pourquoi est-ce qu'on traduit cette blessure dans notre voix, qui pourtant est l'âme de qui nous sommes quand on est chanteur ou chanteuse?
Et puis c'est le premier vecteur de connexion aux autres.
Totalement, d'expression aussi, c'est un traducteur direct. Voilà, donc j'ai vraiment parfois chevauché avec beaucoup d'attention la vague. De ma voix, ce qu'elle était. Aujourd'hui, je travaille avec un maître extra, parce que je travaille toujours. Par contre, j'ai jamais abandonné le travail, qu'il ait été un peu plus athlétique ou qu'il ait été un peu plus dans le respect de la pose dont elle avait besoin. J'ai jamais cessé quand même de chercher comment continuer de l'apprivoiser. Et aujourd'hui, je travaille avec un Italien, un maestro extraordinaire, qui m'apprend à arrêter de réfléchir dans ma voix. Voilà, moi, j'essaie de ne...
Mais on sait que vous êtes une cérébrale, donc ça doit être très, très compliqué d'arrêter de, effectivement, de réfléchir dans à la façon dont vous la livrez, au moment même où vous la livrez.
En fait, j'étais pas forcément une cérébrale, Isabelle. J'étais, au contraire, un animal très instinctif avec la voix. J'ai commencé à réfléchir à partir du moment où elle m'a posé problème. Et puis, un jour, en fait, Fabio, qui est mon maître, me dit « Mais pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu chantes pas ?» Et cette simplicité-là m'a paru tellement... évidente. Voilà, ça m'a parlé tellement.
Vous souviens, vous aviez la réponse. Voilà. Alors, Lara Fabian, adolescente, vous avez étudié l'art lyrique pendant plusieurs années au Conservatoire Royal de Bruxelles. Vous auriez pu devenir cantatrice?
J'aurais pu, mais quand j'ai compris à quel point les règles étaient importantes, à quel point il y avait des espaces dans lesquels on ne pouvait pas se déployer ou se libérer de certaines choses, j'ai compris que c'était pas pour moi, en tout cas pas dans cette vie-ci. Mais souvent, avec un petit sourire en coin, je dis que si je devais revenir un jour, si c'est vrai qu'on revient, j'aimerais être une cantatrice. Ouais, j'aimerais ça.
Mais à l'époque, donc, vous étiez au Conservatoire Royal de Bruxelles, vous vous sentiez peut-être plus proche de Stressante que de la Callas?
Oui, absolument.
C'est
tout,
ça.
Oui, tout à fait, c'est très juste. Ouais. Et donc dans l'écriture, dans le fait de pouvoir maîtriser plusieurs, comment dire, plusieurs cordes de cet arc, Streisand, c'est à la fois quelqu'un qui écrit, qui scénarise, qui joue, qui chante, qui danse, et c'était un peu mon rêve, oui.
Vous dites, j'appartiens à une catégorie de chanteuses issues des années 90 avec un style spécifique, la chanson à large spectre qui peut s'étendre donc sur 3 octaves avec des notes absolument improbables à décrocher. Or, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la démonstration. Pas de besoin de chanter un contre-sol pour chavirer le public. Bon, les contre-sols, vous n'en faites plus sur vos albums, mais j'imagine que vous en faites très très souvent sur scène, parce que le public attend ça de vous.
Mais absolument.
N'est-ce pas ?
Et je suis totalement d'accord.
Je dirais même les publics partout dans le monde.
Oui, oui. Et je suis totalement d'accord avec le fait que lorsqu'on s'est présenté et qu'on a été aimé pour ces raisons-là, on ne peut pas les abandonner. Donc ça se travaille. Par contre, les contresols, c'est quoi ? C'est une note assez haute. Si on doit s'asseoir devant un piano, je le dis pour les gens qui ne pourraient pas imaginer ce que c'est. Et si vous partez du do au centre, vous faites 7 et puis vous faites encore 7 notes et puis vous en faites encore 5. Donc voilà, c'est 2,5 gammes, un contresol à partir de l'endroit où on chante. Moi, je suis soprano.
C'est juste un petit peu en dessous du contrut.
Voilà. C'est un peu en dessous de ce do incroyable que
Mais
font les cantatrices.
Oui. Assez peu de chanteuses, on va dire, hors art lyrique, capables de faire des contresols.
En fait, tout dépend de notre tessiture. C'est même pas une question de capacité. C'est comme dire, il y a très peu de gens qui ont les yeux bleus. On les a ou on les a pas. C'est un peu ça. C'est que c'est une définition de chanter certaines notes qui appartient à la tessiture qui est la nôtre.
Et la fée des contresols, c'est penchée sur le berceau de Lara Fabian.
Faut croire.
Bon, chère Lara, il est temps d'évoquer l'histoire étonnante de votre nouveau single, Ta peine, une balade tout en émotion, née parce que vous avez osé. Vous avez osé appeler Slimane, vous avez osé l'inviter à déjeuner, et au café, vous avez osé lui demander quelque chose que, bien évidemment, il n'a absolument pas eu l'intention, même dans le millième de seconde, de refuser. Il faut nous raconter.
Bah, je l'ai appelé pour lui dire que je me pressentais un parcours commun, une âme commune, des blessures communes, des obstacles communs, et j'avais envie de lui parler. Et je lui ai demandé s'il était d'accord. Alors il était d'accord, on a été manger un délicieux poisson avec des légumes dans ce très très joli hôtel parisien que j'aime beaucoup. Et puis à la fin du repas, il m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu veux en fait ?» Et je lui ai dit « Je voudrais que tu m'écrives un album ». Et là j'ai vu un instant de quand même...
de surprise.
La biche dans les phares. Un peu les yeux grands ouverts. Et puis finalement, il m'a dit, écoute, voilà, et j'ai compris qu'il n'y avait aucune volonté de sa part de dire non ou de dire oui trop précipitamment. C'était vraiment plus...
Un exercice nouveau pour
vous. Voilà, c'était un nouvel exercice, oui.
Donc, vous avez peut-être rectifié en disant que nous vous écrivions un album, c'est
oui,
ça?
Voilà, voilà, tout à fait. Et ça, pour ça, il est d'une générosité, d'une disponibilité, et surtout, il n'a aucune complaisance. Et ça, c'est ce que j'aime le plus dans ce mélange entre lui et moi, c'est qu'on est capable de parler depuis un espace où on se dit les choses comme si on se les disait à nous-mêmes. Avec la même délicatesse, parce qu'on est deux personnes qui avons besoin beaucoup de délicatesse, et en même temps on a besoin de sincérité et de transparence. Donc Slimane, c'est quelqu'un qui m'a permis de parler depuis cet espace. Ou si c'est pas bien, ben c'est pas bien, Isabelle. Hein, ça nous arrive de faire un truc et on se dit bon.
Mais alors, je veux savoir, chère Lara, je veux tout savoir. Qu'est-ce qui est le plus complexe, écrire à deux ou composer à deux?
En fait, on le fait en même temps. La magie qu'on vit au studio avec les frères Salah, que je salue, qui sont extraordinaires parce qu'ils nous accompagnent dans la composition des chansons. Il n'y a aucune règle. Il n'y a pas, tu sais quoi, on va d'abord écrire un texte. Il y a de quoi veut-on parler et quel est le son dans la musique des mots que l'on dit. Hein, c'est souvent ça. C'est tiens, voilà, ta peine, c'était... est-ce qu'on n'a pas envie de se faire bercer quand on a de la peine? Voilà. Et dans ta peine, donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Il y a cette espèce de répétition qui ressemble à deux bras qui nous entourent et qui nous permettent de gauche à droite de trouver ce balancier qui nous guérit.
Et chacun propose soudain des morceaux de lignes mélodiques avec des mots.
Avec des mots, exactement. Et en sachant par contre quelle est l'histoire qu'on a envie de raconter. Et après, on fait l'exercice un peu plus chirurgical de comprendre si le texte fait sens, si l'alliance entre la musique et le texte est juste, et puis surtout si on a été assez profond.
Mais j'imagine, Lara Fabian, que le Final Cut, c'est vous qui l'avez sur le titre. Et d'ailleurs, je dis sur le titre, mais oui. je crois savoir qu'il y a des titres qui ont été ciselés, façonnés, donc avec Slimane, et qui verront le jour sur l'album qu'on attend déjà. Il vous appartient.
Oui, et en même temps, Final Cut, non pas comme une sentence,
bien sûr, mais
comme une prise de conscience que je dois la défendre et que donc elle doit forcément m'appartenir un peu plus. Et à cet endroit, parfois, il y a des choses. Je vous confie quelque chose, Isabelle. On était il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques heures, en train de travailler sur quelque chose et on n'était pas convaincus de partir dans la même direction. Et moi, j'ai compris pourquoi Slimane ne voulait pas aller dans la direction où j'allais. Je l'ai vraiment compris. Et j'ai adoré le fait que ce soit simple pour lui de me dire « Je ne crois pas que ce soit juste de parler de ce thème si grave en l'abordant par la légèreté. On ne se sort de la peine que par la force, pas par la légèreté. » Et c'est tellement vrai, et j'en suis tellement l'exemple d'une certaine façon, que j'ai compris où il ne voulait pas aller et pourquoi c'était juste d'adopter en fait cette croyance, cette vérité qui était la sienne, parce que je crois qu'on a parfois beaucoup de pudeur avec nos douleurs, hein, on a surtout quand on les a processées, transcendées, transmutées comme on veut, hein, il y a une part de nous qui aime pas bien y remettre les mains, hein. et Slimane, parce qu'il a moins de kilométrage sur la douleur et que parfois il est beaucoup plus en prise directe avec certaines douleurs que moi je ne peux l'être parce que je les ai dépassées, il a parfois cette façon de me ramener dedans pour reprendre le fil de l'histoire à l'endroit où elle fait le plus mal.
Alors Lara Fabian, vous êtes née en Belgique, d'une maman sicilienne et d'un papa belge d'origine flamande. La première langue que vous avez parlé, c'est le sicilien, j'imagine.
L'italien.
Ah, nuance.
Ouais, pas le dialecte. Maman me parlait la langue nationale, l'italien. Alors évidemment.
Et la différence entre le sicilien et l'italien.
C'est un véritable dialecte. En fait, c'est une langue. Hein, le sicilien, c'est une langue où on ne conjugue pas les verbes de la même manière. Certains mots sont complètement modifiés, ressemblent beaucoup plus à l'arabe. Il y a vraiment l'Orient dans le dialecte sicilien. Donc c'est une langue à part entière.
Et c'est en Sicile que vous avez grandi, à Catane, au pied de l'Etna. Votre père, à cette époque-là, avait renoncé à la Belgique parce que vous êtes née à Bruxelles.
Oui, en fait, il continuait d'y travailler. Il venait nous rejoindre quand son travail en hiver cessait.
Ouais. Vous avez aimé être fille unique, Lara Fabian. La solitude ne vous pesait pas?
Ah, je ne sais pas si j'ai aimé être une fille unique, Isabelle. Je crois que si j'avais pu le choisir, concrètement, intellectuellement, j'aurais fait un autre choix.
Mais parlons de ce père. Lui, quel métier exerçait-il quand vous êtes née? Parce qu'au départ, il était musicien. Ensuite, il a pris un autre aiguillage, c'est ça?
Voilà. En fait, très tôt, il a pris un autre aiguillage parce qu'il appartenait à une famille où on ne croyait pas trop au rêve d'artiste. Il a été vraiment, je pense qu'il a été profondément meurtri, écrasé d'ailleurs dans son rêve d'artiste. Et il a reporté ce rêve un peu sur moi, d'une certaine manière. Maman, elle avait un rapport beaucoup plus pragmatique avec ce métier. C'était genre, j'espère que ma fille ne rentrera pas là-dedans parce que je n'ose même pas imaginer ce que seront ses douleurs et ce que sera son parcours. Maman avait des appréhensions réelles, en fait, sur ce métier. Bon, plus ou moins justifiées et après, plus ou moins exactes. Mais papa, lui, était plutôt, on dit en anglais, trooper. Il était plutôt fan de l'idée que je reprenne ce flambeau qui était un peu son rêve déçu à lui.
Alors, quand vos parents sont rentrés donc de Sicile en Belgique, ils vous ont inscrite à des cours de chant, de piano, de solfège, de théâtre. Et à l'âge de 8 ans, vous êtes entrée, on l'a dit tout à l'heure, au Conservatoire Royal de Bruxelles. Mais votre vocation première, Lara Fabian, n'était pas le chant. Vous rêviez de danse classique. Alors, qui vous a aiguillé autrement?
Alors, le don que j'ai reçu était celui du chant, c'est
bien
vrai.
Bien sûr, mais parfois on rêve d'autre chose que ce qu'on possède déjà.
Voilà, exactement. Donc, mon rêve à moi, c'était, moi je rêvais en regardant Nouraïev ou Baryshnikov ou les étoiles de l'opéra. Je rêvais de danser. J'avais pas vraiment le physique pour, hein, en toute sincérité. Je ressemblais pas tellement à la cheville fragile reposant sur une stature sylphide. Bien au contraire, j'étais plutôt la fille d'une petite Sicilienne. Plutôt de petite taille et avec des formes. Je ressemblais plus à une bouteille de Chianti qu'à une brindille. Non, mais c'est vrai. Donc, très très tôt, en fait, ce maître de magie qui m'avait reçu pour les premiers cours a été, voilà, on va dire, très clair. Il m'a marché sur le pied. Je ne sais pas si vous avez déjà raconté cette...
Il vous a marché sur
avec,
le pied.
Avec la baguette, en fait, il m'a écrasé le pied et en disant, bon, toi, t'es grosse.
Mais c'est atroce. Non,
ouais, j'avais 8 ans. Fait, toi, t'es grosse et je ne vois pas qui pourrait soulever ça. Donc, dehors. Donc, ça s'est arrêté assez abruptement.
Mais c'est effroyable.
Ouais, c'était pas terrible. Je dois dire, c'était pas terrible. Par contre, ça m'a jamais détourné de l'amour que j'ai pour cet art exceptionnel. Oui, je continue, moi, de, voilà, je suis une immense fan de Pietra Galla. Une immense fan de toutes ces étoiles, de Aurélie, de Marie-Agnès. Enfin, je les regarde avec une admiration, qui me transporte littéralement.
Lara Fabian, vous aviez quel âge quand votre père, qui fut guitariste et choriste de Petula Clark, quand même, c'est pas anodin, quand votre papa commença à être intrigué par la virtuosité de votre voix?
J'ai 5-6 ans, à peu près.
Si tôt?
Oui, parce que je chante les vocalises d'Eve Brenner et que je déclare moi-même vraiment triomphante. Je savais pas à l'encontre de quoi j'allais, mais je lui ai dit dans la voiture ce jour-là, je lui ai dit, tu sais papa, je suis chanteuse. Il était foudroyé. Il est rentré en courant à la maison en disant à ma mère, alors Louisa, on a un problème, ta fille est chanteuse. Mais j'ai jamais lâché.
Mais il s'en est réjoui.
Ou une part de lui s'en est réjoui.
Voilà, absolument. Puisque c'est votre père, Lara Fabian, qui, par exemple, l'année de vos 14 ans, a eu l'idée de vous accompagner dans des clubs, les piano-bars de Bruxelles, à la guitare, bien sûr, émerveillé par sa fille qui poussait la bella voce avec une aisance hallucinante. C'est pas évident quand même de chanter à 14 ans, on est encore une enfant, dans un lieu où on est cerné par des adultes. Comment vous affrontiez les regards des publics de piano-bar? C'est pas évident du tout.
Mais en fait, à cet âge-là, on n'en a pas vraiment conscience, Isabelle. On se lance plus depuis l'endroit où on est enthousiaste et où on veut exprimer notre voix, par le biais de chansons qu'on nous transmet ou qu'on aime ou qu'on découvre. Donc moi, j'étais pas dans la peur en fait de ce qui allait se passer. J'avais juste aucune information sur ce qu'allait être une soirée dans un piano bar.
Et vous étiez accompagnée de votre père déjà.
J'étais accompagnée d'un parent.
Tout était en parfaite sécurité.
Et ma mère était dans la salle. Hein.
Ah, et la maman était dans la salle.
Oui.
La maman réfractaire qui se laissait quand même complètement embarquer par la voix de sa fille.
Alors réfractaire, oui, probablement. J'ai jamais vraiment été très, très au courant de ce que maman, quand j'étais gamine, hein, pouvait percevoir ou ressentir quand je chantais parce qu'elle n'en parlait pas. Non, c'était plus tard. Plus tard, elle a fini par s'émouvoir sur certaines choses. Et là, j'ai compris, en voyant son émotion, que je la touchais, en fait. Mais je n'en avais aucune certitude avant.
Et à l'époque donc de l'adolescence, quand vous chantiez ainsi, quel était votre répertoire? Que choisissiez-vous?
Alors je chantais Streisand, je chantais Nana, je chantais de grandes chansons, de la country music parce que mon père aimait ça justement. Mais Streisand, c'était très très présent dans mon répertoire.
Bon, en chantant dans des clubs et des pianos-bars, on acquiert certains fondamentaux que ne délivrent pas forcément les conservatoires. Mais comme vous poursuiviez vos cours en Conservatoire Royal de Bruxelles, vous aviez en fait le côté face et le côté pile de la médaille. C'est un apprentissage rare.
Oui, mais ça permet de prendre la mesure de tout ce que ça pourrait être éventuellement. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vous écoute pas ou qui ne vous aimerait pas ou quelqu'un qui dont vous finissez par avoir l'attention parce
voilà.
que ce que vous faites traverse. Donc oui, c'est une école extraordinaire.
Vos professeurs au Conservatoire Royal de Bruxelles venaient vous écouter chanter, ils étaient au courant ou pas du tout?
Non, le prof de piano était au courant, le prof
de
chant, Madame Courtois était au courant. Bah, c'était pas leur préférence forcément, parce que leur monde à eux était différent. Et puis surtout, ils voyaient dans cette volonté de libérer le chant autrement la perte de l'identité de la chanteuse classique. Hein, pour eux, c'était tellement loin de l'univers auquel ils
veulent. Vous aventuriez sur des terres traîtresses. C'est ça?
Alors, ou à tout le moins ennemis, en fait. Peut-être pas des traîtres, mais il y avait quand même une
tout
forme.
Même.
Je ressentais parfois que c'était un terrain ennemi pour eux, comme si c'était l'inverse, je devrais dire, de ce qu'il faut pour nourrir le chant. Voilà. Pour eux, les ambiances où il y avait de la fumée, où on se couchait tard, où c'était pas préservé, où le geste de la technique ou bien le geste de l'exercice de la voix n'était pas forcément induit ou inclus, où cette trop grande liberté était la perte de l'intégrité de la voix. Je voyais vraiment pour eux, ils estimaient que j'allais m'abîmer. Voilà.
Ah.
C'est en ça que je parle de l'ennemi. Non pas parce qu'ils n'aimaient pas la musique pop. Mon professeur de chant adorait la musique pop, mais elle estimait que les coutumes, les us et coutumes de la musique pop étaient loin de la préservation que l'on se doit quand on fait ce métier.
Et lorsque vous retourniez à votre cours au conservatoire, de façon très spontané, vous vous appropriez à nouveau toutes ces règles, tous ces codes, vous les faisiez vôtres.
En fait, c'est celles qui m'ont sauvée, Isabelle, parce que
ah
moi,
oui.
Je ne les ai jamais abandonnées. En fait, j'ai compris très tôt à quel endroit eux avaient des craintes et pourquoi c'était légitime qu'ils les aient. Et puis, quand je suis rentrée dans la musique pop, j'ai vu à quel point c'était pas forcément, j'ai pas bien vu, mais en tout cas, c'était pas dans les mœurs d'exercer sa voix ou bien de pratiquer des gammes comme un instrumentiste. Voilà, j'ai vu que dans la pop, il fallait y aller plus à l'instinct, il fallait y aller plus avec l'instant présent, le moment, et puis aller, comment dire, à la one again, à rock and roll, et on y va. Mais la voix, c'est un muscle. Donc, à un moment donné, quand on l'abandonne au sens du travail, ben, elle nous abandonne, en fait, tout simplement.
Lara Fabian, le 30 avril 1988, à l'âge de 18 ans seulement et pratiquement inconnue, vous montez sur scène à Dublin devant 200 millions de téléspectateurs pour représenter le Luxembourg à l'Eurovision. Et d'ailleurs, vous décrocherez la 4e place. Ce qui ne vous empêche pas de partir en Italie pour entreprendre ensuite des études absolument inattendues puisque vous allez vous spécialiser en criminologie infantile. Bon, vraiment, cette jeune femme est pleine de ressources. Elle est fascinante, Lara Fabian. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant sur Europe 1. On fait une pause très courte. Et on a de la chance cet après-midi parce qu'on se promène avec Lara Fabian.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Un nouveau single co-écrit et co-composé avec Slimane, Ta peine, annonciateur de l'album. La grande soirée des enfoirés, le 1er mars sur TF1 et ensuite The Voice Kids, où elle sera jurée. Eh bien, l'agenda de Lara Fabian est explosif. Elle est mon invitée aujourd'hui. Alors, chère Lara Fabian, j'évoquais à l'instant l'année que vous avez passée en Italie à entreprendre des études pour le moins inattendues, puisqu'il s'agissait de criminalité infantile. D'abord, pourquoi ce choix et ensuite, pourquoi avoir renoncé? Parce que ça a duré un an, pas
oui,
plus.
Même pas, c'était 9 mois. En fait, à un moment donné, après avoir pris mon diplôme, le diplôme au lycée, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée, après l'Eurovision, de m'engager dans des études qui auraient peut-être ouvert une autre porte, si jamais ce qu'était mon rêve ne pouvait pas exister, parce que ça aurait été possible aussi. Hein. Je n'étais pas forcément destinée à devenir
Enfin, vous aviez seulement 18 ans, vous étiez inconnue, vous décrochez la 4e place à l'Eurovision, et vous partez, vous filez en Italie pour des études études en criminologie infantile. J'imagine que toute l'équipe qui vous cernait à l'Eurovision a dû être extrêmement surprise.
Oui, un peu, et en même temps, c'est une étape. Hein. L'Eurovision, c'est pas forcément la famille avec laquelle on finit par,
c'est juste ponctuel.
Par se déployer. Voilà, tout à fait. Donc, je suis rentrée à l'université à Vérone, mais vraiment rentrée et ressortie, hein, c'est le cas de le dire, parce que c'était pas pour moi. Voilà, je me suis très très rapidement aperçue que je n'étais pas faite pour passer les 5 voire 7 prochaines années à étudier pour devenir avocat, parce qu'en fait j'aurais été juriste,
ouais,
spécialisée en criminologie infantile, parce que ça me fascinait de voir la violence entre les enfants, enfin fascinée au sens pas forcément positif du terme, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi un enfant si petit peut se commettre dans des gestes de violence si grands. Et donc je me disais, s'il fallait un jour que je fasse autre chose, je voudrais être au service, ouais, de cette grande inconnue. Voilà.
Lara Fabian, le premier pays qui a fait de vous une star, c'est le Canada. Vous aviez 20 ans quand vous êtes envolée pour le Québec. Tout de suite, vous a aimé et couverte de récompenses, ce qui vous a permis de revenir comme une reine en Belgique et en France en 97 avec l'album Pur qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Mais c'est pas tout près le Canada. Or, votre vie au quotidien se déroule au Canada. Pourquoi avoir choisi d'y écrire votre histoire au long cours plutôt qu'en France ou en Belgique? Parce que vous êtes parti là-bas, donc les premières années où, voilà, soudain, la gloire s'est emparée de vous, tout a explosé et on a le sentiment que vos racines, quand même, désormais, sont là-bas.
Alors, il faut savoir que moi, je pars à l'âge de 21 ans, effectivement, avec Rick Allison, à l'époque avec lequel j'écris toutes mes chansons, qui est mon compagnon de vie, et que tous les deux, on a un grand besoin de mettre un océan entre ce qu'étaient nos vies et ce qu'elles devaient devenir, ce que nous voulions qu'elles deviennent. Donc, la première nécessité, elle était pas forcément à l'endroit où on allait chercher quelque gloire que ce soit. Elle était à l'endroit où on avait besoin de s'éloigner de ce qu'étaient nos vies en Europe. On partageait des rêves communs, certes, on écrivait des chansons ensemble, on s'aimait, et puis on a ramé pendant presque 9 ans quand même. Et au Québec, on a sorti un premier album, un deuxième album, et au troisième album, il s'est passé quelque chose. En reprenant la chanson de Serge Lama, Je oui. suis malade,
oui.
J'ai attiré l'attention d'un public différent et j'interprétais de manière, comment dire, tellement sincère, je crois, cette douleur-là que les gens se sont attardés, se sont dit, tiens, c'est qui cette fille?
Ils ont redécouvert la chanson de là-bas.
Voilà, au Québec, par le Québec, ça a commencé. Et à partir de là, il y a eu un premier, un deuxième, un troisième succès, mais ça s'est construit lentement. C'est lorsque je suis revenue vers l'Europe avec l'album Pur et la chanson Tout, qu'il y a eu un feu d'artifice qui m'a précédée. Bon, moi, j'ai absolument rien compris à cet endroit-là. Mais ça a été quand même partir au Canada et y trouver des repères, une famille, des gens avec lesquels se construire depuis l'endroit où j'avais le droit d'être juste moi, et c'était OK.
Par exemple, qu'est-ce qui distingue les artistes canadiens des artistes français?
Mais on n'a pas la même culture et puis on n'a pas la même ancienneté non plus. C'est un pays très jeune, hein. Ils ont 400 ans, nous on a des milliers d'années. Donc
oui, mais
forcément,
les artistes, par exemple, nous les Français, quand on évoque les chanteuses canadiennes, on sait que ce sont des chanteuses à voix, à très grande voix. Mais le métier, les médias, le public fonctionnent différemment au Canada ou bien il y a une mondialisation des méthodes, des goûts, des couleurs
Alors, en fait, au Québec, au Canada, personne ne fait la distinction entre une chanteuse dite à voix, comme on la classifie en France, et une chanteuse. C'est-à-dire une chanteuse, c'est une chanteuse. Point. Quelle est une tessiture qui comprend 2 notes, 7 notes ou 21 notes? Ça n'a pas d'importance.
Mais il y a peu de chuchoteuses au Canada.
Alors, il y a des gens qui expriment leur voix de façon ouverte. Et j'ai compris en fait que géographiquement et énergétiquement, un pays où il y a si peu de gens pour un si grand espace est propice à une ouverture vocale. En fait, c'est presque vibratoire. C'est un peu, d'ailleurs, c'est Canada, hein. on le dit comme ça. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui se passe vraiment au sens de cette immensité qui se déploie dans leur voix. Donc, c'est pas une question qu'on se pose, c'est pas un choix qu'on fait. On chante comme on appartient à un territoire où il y a peu de gens, finalement, et où porter la voix est un gage de se rencontrer.
De la même manière qu'aux États-Unis, on dit « think big ».
Voilà, un peu,
c'est-à-dire
pour la même raison
doit
d'ailleurs.
Être ample pour la même raison.
Mais parce que le territoire
est grand,
parce que le territoire l'est, voilà. Et en France, on c'est pas tellement qu'il y a plus de gens qui chuchotent, c'est que il y a aussi un grand besoin de se conter des histoires à l'oreille, de se raconter les choses dans l'intimité. C'est vraiment culturel. C'est pas parce qu'il y a pas de voix en France. Il y a eu des voix immenses en France, immenses. Je veux dire de Nicole Croisi à Nicoletta, en passant par parlons d'une femme qui s'appelait Marie Myriam et qui avait fait l'Eurovision, qui est une immense voix. Les Linda de Souza de ce monde, qui est même si elles étaient...
Mais Lara Fabian, lorsque par exemple Céline Dion fait un album avec Jean-Jacques Goldman, celui-ci, pour le public français, lui demande de retenir, de contenir sa voix.
Oui,
parce qu'en France, en théorie, on n'est pas dans la démonstration. Donc moi, j'imaginais que, il y a le répertoire que vous interprétez sur le continent américain, c'est-à-dire les chansons à voix, et celui que vous réservez à l'Europe, particulièrement à la France, qui serait un peu plus intimiste?
Pas du tout. En tout cas, pas pour moi, Isabelle. Moi, j'ai jamais changé de chanson parce que je changeais de continent.
Non, mais je parlais de la manière d'interpréter.
Moi, j'ai été connue parce que j'avais cette fougue.
Voilà. Et
ce déploiement-là. Et idem pour Céline. Même si Jean-Jacques, il a eu le besoin de lui expliquer qu'il y avait peut-être une autre culture et que d'un point de vue vraiment, atavique, anthropologique. Ici, on ne s'exprime pas comme on se déploie, mais on s'exprime comme on se confie dans la confidence. Mmh. Il n'en reste pas moins que la nature de quelqu'un, c'est la nature de quelqu'un. Et je pense que l'immense succès, que ce soit de Céline, des gens comme même qui sont très aimés en France, comme Whitney ou Mariah ou bien quelqu'un comme moi, appartient au fait que dans ce déploiement, il y avait des bras ouverts et que on aime se faire prendre dans les bras par quelqu'un qui peut nous transmettre cette intensité, qui peut nous transmettre cette intégrité. Pas tout le monde, c'est vrai. Tout le monde n'aime pas forcément l'intensité. Et donc ça, je sais que parfois, cette intensité a été l'écueil, a été l'obstacle pour certaines d'entre nous. C'est vrai. Où on s'est fait critiquer de cette façon-là parce que après, vous savez, les gens, elles chantent trop fort, ou c'est trop grand. Mais moi, je le comprends. Je sais d'où ça vient. Je sais pourquoi parfois les gens disent ça.
Lara Fabian, quelle interprète féminine vous bluffe littéralement aujourd'hui?
Je reste branchée à la vieille école d'une certaine manière. J'aime profondément Streisand. J'aime énormément Céline. On s'en est déjà parlé, vous le savez. Dans les plus jeunes aujourd'hui, moi je suis très très sensible à Santa parce que je la trouve ample. Aussi, je trouve qu'elle a pas peur de se déployer et à la fois de se raconter. En fait, c'est comme si elle arrivait à créer un métissage incroyable de ces deux pôles de la chanteuse. Parce que c'est pas parce qu'on est capable de chanter 21 notes qu'on n'aime pas chanter les trois premières.
Lara Fabian, avant la guerre en Ukraine, vous chantiez très souvent dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Est et en Russie, vous avez chanté de nombreuses fois au Kremlin, comme le faisait en d'autres temps Patricia Cass. Il y a donc désormais des populations que vous ne pouvez plus aller voir, car vous chantiez même en Sibérie. Mm-hmm. Aujourd'hui, ces populations-là, qui aimeraient accueillir Lara Fabian, ça n'est plus possible.
Mm-hmm. Ben, on les a privés d'une certaine musique au nom d'une guerre faite par quelques hommes qui ont fini par mettre à genoux des millions d'hommes et de femmes. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est très triste.
En moyenne, combien de concerts donnez-vous par an?
Alors, ça dépend de ce que je choisis de faire désormais. Mais je vous dirais entre 25 et 30 dans tous ces pays-là.
Vous parlez de choix désormais, c'est-à-dire que pour vos 50 ans, par exemple, vous avez chanté dans les 50 plus grandes villes de la planète. Et tout ça a été absolument prodigieux. Mais vous allez vers plus ou moins de concerts en ce moment?
Moins et plus concentré. Oui. Et puis après, une belle grande période de repos pour faire autre chose. Et puis à nouveau d'autres concerts. Donc je partirai plus jamais en tournée 3, 4, 5 mois.
Ça, c'est fini. Et pourquoi?
Parce que je n'y retrouve pas le... Il y a un endroit où ce qui devient une routine m'empêche d'être dans la sensation que j'aime. Voilà. Et j'ai jamais envie de monter sur scène comme un automate. Je veux pas monter sur scène comme un automate. Je veux monter sur scène avec cette joie.
Il faut que ce soit un rendez-vous, vrai rendez-vous chaque fois.
Voilà, j'ai pas envie de me dire, ça y est, on est au 72e concert, bon allez, je t'aime, tout, j'y crois encore, Humana, tu es mon autre. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie que l'histoire se raconte à chaque soir.
Mais alors, il y a un côté technique qu'il faut évoquer et que le public parfois ignore. Il y a peu, Lara Fabian, vous avez confié dans la presse, ce sont les tournées qui font vivre les artistes, pas la vente des albums à cause des plateformes de streaming. Donc, le métier a complètement changé. Un artiste ne vit pas de ses royalties, même quand son titre est un tube gigantesque aujourd'hui.
Plus comme avant, en tout cas. Plus comme avant. Effectivement, les plateformes de streaming qui avaient pour vertu et noble, je la comprends, de rendre disponible de manière beaucoup plus directe la musique, ont aussi malheureusement...
Ça s'est dévoyé.
Voilà. Ont aussi malheureusement créé l'horrible nouvelle, on va l'appeler vraiment l'économie bancale de la musique, et non pas parce que il y aura un problème avec le fait de gagner moins, c'est pas le problème. Le problème, c'est que faire de la musique continue de coûter exactement la même chose qu'avant. Mmh. Ou faire des images, faire un clip par exemple, n'importe quel artiste vous dira que pour faire un clip qui se respecte, il y a besoin de plusieurs milliers d'euros, pour faire un album aussi, et que dès lors où l'équation ne correspond plus à une réalité viable, ben on se retrouve avec de jeunes artistes qui n'ont pas l'opportunité d'avoir comme moi un parcours de 30 ans et d'avoir de côté ce qui leur permet de continuer de nourrir leur musique économiquement. Donc c'est en ça que la plateforme de streaming pour moi a ouvert une fenêtre, oui, mais a fermé une autre opportunité aux artistes.
Lara Fabian, être mariée à un magicien n'est pas une chose courante. Est-ce que ça a transformé votre rapport aux apparences et à la notion de réalité?
En fait, ça m'a permis de voir une autre facette des apparences.
Ah ah.
Et surtout de voir que parfois, une apparence peut créer la stupéfaction, la joie et nous reconnecter à notre âme d'enfant, plutôt que d'être simplement une façade. Donc effectivement, être mariée avec un magicien, moi je fais partie de ces femmes de magiciens qui ne veulent pas savoir le truc.
Ah, vous ne voulez pas savoir.
Ou l'ingénierie derrière. Parce qu'en plus, je suis mariée avec un ingénieur magicien, donc quelqu'un qui conçoit l'ingénierie derrière le tour que l'on voit. Donc lui, il ne fait pas que l'exécuter, il le fabrique.
Ah, moi je pensais que vous participiez, et parfois peut-être vous lui souffliez des idées. Mais alors, il paraît qu'il y a chez vous un laboratoire atelier où votre mari Gabriel, donc, imagine et conçoit ces tours de magie. C'est pour ça que vous dites ingénieur magicien.
Absolument, oui, vraiment, il dessine donc la mécanique qu'il y a derrière, je dis n'importe quoi, une lévitation plutôt qu'une apparition, et il la met en scène. Mais à la base, il la dessine et il la crée, il la conçoit avec ses mains.
Et il vend ses tours à d'autres magiciens.
Entre autres, et dernièrement, il a enfin décidé de revenir vers lui et de créer son propre spectacle. Donc j'ai vraiment hâte de bientôt voir ça.
Qui démarrera dans combien de temps ?
Une bonne année à peu près.
Bonne année. Et dont vous connaissez déjà le titre ou pas ?
Oui, mais je ne peux pas vous le dire. Il n'aimerait pas que je le dévoile.
Bon, alors on s'en reparlera. En tout cas, ça doit être fascinant pour votre fille, Lou, d'avoir chez elle un grand laboratoire où son beau-père invente des tours de magie professionnels. En plus, à grande échelle.
Oui, c'est magique. Elle est vraiment fascinée par son papa de cœur, je dois dire. Ouais.
Quel tour vous émerveille le plus dans ce qu'il réalise, votre mari ?
Ceux qui racontent une histoire, ceux qui lui permettent de mettre en scène vraiment toute la poésie qu'il a en lui. Pas seulement ceux qui nous stupéfient, mais ce qui va nous émouvoir. Moi, c'est ça qui me touche le plus dans ce qu'il fait.
En tant que magicien, il a participé à certaines mises en scène de vos spectacles, Lara Fabian ?
Non, même si c'est quelqu'un de très très riche de ce point de vue-là, et que après c'est quelqu'un de tellement humble, voilà, de tellement discret, qui n'a pas voulu le faire, mais il y a parfois des choses qui venaient de lui, dont il n'a pas voulu que je parle, mais qui étaient strictement ses idées et sa vision. Ouais.
Oui, donc ça infuse quand même,
ah
voilà.
Oui, toujours, hein, deux artistes dans le même livre,
bien
infuse.
Sûr. Bon, Lara Fabian, l'année 2024 s'annonce particulièrement riche pour vous, car vous nous donnez plein de rendez-vous. D'abord sur TF1 avec le concert des Enfoirés, le vendredi 1er mars. Donc on va vous retrouver, entre autres, aux côtés de Matt Pokora, de Zazie et de Scheim, pour un show qui est plein de surprises, puisque il a déjà été enregistré, et maintenant on attend, nous, public, de le voir le 1er mars.
Absolument, il va être magnifique, vous allez vous régaler, vous allez voir des mélanges vraiment inattendus qui vont créer, je crois, en tout cas énormément de joie dans le cœur des gens.
On ne peut pas elle est inflexible, on ne pourra pas. Et puis, on vous retrouvera, Lara Fabian, aux côtés de Slimane. À nouveau, voilà, toutes les étoiles sont alignées. Slimane, que vous ne quittez plus, puisque, on l'a dit, vous avez composer ensemble les titres de votre nouvel album et du premier single Ta peine. Donc, on vous retrouvera avec Slimane dans The Voice Kids, mais alors, la date, on la connaît pas.
Non, pas encore. Moi-même, je ne le sais pas encore.
C'est hallucinant, ça.
Bah, on va garder la surprise.
On va garder la surprise. Est-ce que les Jeux Olympiques seraient passés par là et auraient un peu explosé l'agenda de TF1?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Je ne sais pas, Isabelle. Peut-être que vous en saurez plus que moi et plus vite que moi.
Ça m'étonnerait. Lara Fabian, bon, on vous sait très douée pour tout ce qui est coaching et transmission. Alors, cette école de chant dont vous nous promettez l'ouverture depuis 5-6 ans déjà, verra-t-elle le jour?
En tout cas, j'aime à le penser. J'aime à le penser que ce sera bien plus tôt que tard. Je suis en train d'imaginer d'ailleurs le programme de ce que je voudrais offrir. Parce que pour moi, c'est pas vraiment une école de chant qui se basera que sur la technique du chant, mais ce sera beaucoup plus holistique. C'est quelque chose qui tutoiera ce que nous sommes, pourquoi on utilise le chant, de quelle façon ça peut être un outil de résilience, d'expression, une stratégie pour aller mieux. On n'a pas besoin d'être chanteur pour chanter. On peut juste avoir envie de se livrer.
Donc ce sera un accompagnement global,
oui,
autour de quelqu'un qui a envie de s'exprimer par le chant.
Et de se livrer.
Qu'il souhaite devenir professionnel ou pas.
Ou pas, absolument.
Mais alors, il paraît que ça pourrait être une école itinérante.
Alors, il y a les deux parties. Il y a une partie racine, où les gens pourront venir à nous, parce que je ne serai pas seule, évidemment. J'ai quand même une équipe extraordinaire autour de moi, 3-4 personnes dont je parlerai plus tard, et qui offriront des masterclass qui seront convergentes au chant, mais qui seront vraiment, je pense, ce qu'il est primordial de savoir, en fait, lorsqu'on a envie de s'engager, ou pas d'ailleurs dans ce métier, ou pas, justement. Et puis, à d'autres moments, je quitterai cet endroit racine, oui, et j'irai voir les gens. Oui, absolument.
Donc, vous serez de toute manière entourée, mais très présente, mm-hmm, dans cette école.
Toujours, non, ce sera, les gens auront toujours affaire à moi, bien sûr, s'ils sont d'accord, bien sûr.
Lara Fabian, à 50 ans, on peut dresser de vrais bilans. Imaginez-vous ainsi votre carrière quand vous en aviez 18 ou 20?
Ah non, 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 moi j'étais pas du tout. J'étais vraiment quelqu'un qui goûtait le moment présent beaucoup plus. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je l'ai toujours vécu, pour ne pas vivre soit dans l'attente ou dans la peur. Voilà, donc non, je pouvais pas imaginer que 35 ans plus tard, je serais encore là.
Et oui, parce qu'on dit 30 ans, mais on oublie qu'à 18 ans déjà, voilà, vous étiez sur le podium à l'Eurovision.
Exactement, voilà, donc ça fait 35 ans en réalité.
Et on pourrait même dire plus, parce que c'est toute une vie de chanteuse avec une petite fille qui annonce à l'âge de 6 ans à son papa « Je serai chanteuse ».
C'est vrai.
C'est vrai. Et tant mieux pour nous. Le nouveau single « Solaire » a pour titre « Ta peine ». Il a été conçu avec Slimane et annonce un album qui sortira très bientôt. Merci d'avoir agité les souvenirs une fois de plus pour
merci.
Nous,
merci de
Lara Fabian.
Merci de me l'avoir permis, Isabelle. Merci.
Je vous embrasse, à très bientôt.
Isabelle Morizet sur Europe 1.